Donc là, on a entendu les salariés de l'entreprise ECCE, où il y a le risque que la production Kenzo parte vers les pays de l'Est. Elles déclarent que de toute façon, elles vont se battre, y compris elles se sont déjà battues lors du premier plan licenciement suite au départ de Yves Saint-Laurent, où elles ont obtenu des plans de formation, ce genre de choses-là. Mais finalement, on a le sentiment que même ces luttes, ça n'agit pas sur les causes. Ça agit en partie sur les conséquences, mais pas tellement sur les causes.
Mais le drame, c'est que c'est vrai. C'est pas là que ça se joue. J'essaye de promouvoir une différence entre ce qu'on pourrait appeler la politique principale et la politique secondaire, ou la politique majeure, la politique mineure, ou je sais pas, voilà, la grande politique et la politique résiduelle. Alors, qu'est-ce que c'est la grande politique? La grande politique, c'est celle qui fixe les structures principales macroéconomiques à l'intérieur desquelles le jeu économique et social va se développer. Une fois que ces grandes structures ont été posées, ont été configurées, alors presque la totalité de la dynamique économique et sociale s'en trouve déterminée. Qu'est-ce que c'est que ces grandes structures? C'est la concurrence généralisée, c'est-à-dire la déréglementation des marchés de biens et de services. Première grande structure. Deuxième grande structure, la libre circulation des capitaux et la libéralisation financière. Troisième grande structure, la monnaie unique. Une fois que ceci a été posé, les marges de manœuvre qui restent à la politique sont quasiment risibles. Et là, on rentre dans le champ de ce que j'appelle la politique résiduelle. D'une certaine manière, on pourrait dire que la politique résiduelle et les alternances qui vont avec, ça porte sur la taille de la serpillière qu'on va passer, c'est-à-dire la grande politique, la politique principale, celle qu'on fait d'ailleurs en général hors la vue des citoyens, à l'OMC, à l'AMI, à la GCS, dans la construction européenne, énormément. Ces politiques principales, ces grandes contraintes structurelles, entraînent des dégâts économiques et sociaux, bon, j'ai pas la peine de m'étendre là-dessus, hein, qui sont connus de tout le monde. Et la politique secondaire, la politique résiduelle, passe derrière avec le seau et le balai pour éponger des dégâts.
C'est l'infirmerie un peu.
C'est l'infirmerie. Alors voilà, UMP, petite serpillière, Parti Socialiste, grande serpillière. Quant au cas du Parti Socialiste, là je m'interroge. D'un point de vue méthodologique en sciences sociales, recourir trop vite aux hypothèses de bêtises n'est pas une bonne chose. En même temps, il faut pas complètement les exclure non plus, hein, parce que là, c'est vraiment, c'est un cas presque type. On entend à longueur de journée des déclarations des proclamations sur le désir ardent de lutter contre les inégalités, mais jamais, à aucun moment, on ne s'interroge sur les véritables causes des inégalités. C'est-à-dire, on veut bien lutter contre les inégalités, mais jamais on ne se propose de lutter contre ce qui produit et reproduit sans cesse ces inégalités.
Vous voyez dans le traité constitutionnel, dans la construction, le mode de construction de l'Europe, l'une des causes de ces inégalités?
Je les y vois toutes. Je les y vois toutes parce que ces grandes contraintes structurelles, celles qui sont l'objet de la politique majeure et que j'ai rappelé tout à l'heure, elles sont toutes explicitement mentionnées dans le traité. Déréglementation concurrentielle, libéralisation financière, monnaie unique. C'est une triple tenaille. C'est-à-dire, une fois qu'on est pris là-dedans, les marges de d'abord, les effets s'en suivent de manière quasi mécanique. Donc ces grandes contraintes structurelles, elles sont répétées, affirmées et, comme le dirait une expression qu'on a beaucoup entendue, gravées dans le marbre du traité constitutionnel. Et alors, c'est ça qui est un petit peu dramatique, parce qu'il faut faire le lien entre ces choses qui sont très très lointaines et très très abstraites, hein, qui sont des objets de discussion pour macroéconomistes, d'une part, et d'autre part...
Ces choses très très abstraites, c'est la libre concurrence.
Absolument, c'est ce travail des grandes...
L'indépendance de la banque centrale.
Et c'est la libéralisation financière. Il faut mettre en rapport, il faut établir les connexions entre ces choses abstraites et lointaines et d'autre part le vécu des salariés mais sur leur terrain d'entreprise, c'est-à-dire au niveau de leur plan social, etc.
Alors comment agir sur ces contraintes structurelles?
Ah mais alors là, c'est là que c'est formidable parce que l'histoire ne nous ouvre pas souvent des fenêtres, elle ne nous sert pas très souvent des opportunités. Or, nous avons, miracolo, nous avons un débat référendaire qui précisément met en question ces grandes structures, et ceci pour la première fois depuis qu'elles ont été installées. Depuis 20 ans que nous vivons sous le régime de ces nouvelles contraintes, nous avons l'occasion de nous prononcer sur cette question. Et pour la première fois, le débat roule sur les vraies questions. Les vraies questions de structure, on ne parle que de ça. On ne parle que de la banque centrale indépendante, on ne parle que des contraintes liées à la monnaie unique, on ne parle que des contraintes liées à la déréglementation. Donc c'est pas comme en 2002, où la question sociale et économique, qui est vraiment importante en dernière analyse. C'était trouver défiguré sous l'espèce de débat à la con sur l'insécurité, l'immigration, les sauvageons, etc. C'est que on revient à la véritable question. Alors là, attendez, là, je veux dire, c'est une occasion en or de se prononcer. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vrais enjeux se situent au niveau de ces grandes contraintes, alors là, il faut saisir l'occasion de ce référendum, il faut y aller. Un débat de cette nature ne reviendra pas avant 2 décennies. Moi, je pense que c'est un scrutin à caractère historique que nous vivons. Parce que nous avons de nouveau droit à la parole pour poser les questions de la politique majeure, pour poser les questions de la politique principale. Et on sort de la politique résiduelle. Donc, il faut se précipiter.